Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierre Faucillon. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Elisabeth Philippe et Florent Georgesco pour parler ensemble de La femme à part de Viviane Gornick, paru chez Rivage, La vraie vie d'Adeline Dieudonné chez l'iconoclaste, Federica Baer de Marc Green chez Grasset. Le cœur de Florent Georgesco battra ce soir pour Répertoire des métiers imaginaires de Rémy Le Boissetier aux éditions du Centre. En tout cas, votre coup de cœur. On verra s'il bat encore à ce moment-là. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition La santé de Mathieu Pernaut. C'est à découvrir jusqu'au 6 janvier au 104 à Paris. Et tout d'abord, une page de publicité pour les masterclass de France Culture. C'est une nouvelle session d'enregistrement ce samedi, autant dire après-demain, 13 octobre. Alors ça commence à 12h30, ça commence par un écrivain, c'est Alaa Souhani, l'auteur notamment de l'immeuble Yacoubian, mais qui vient de faire paraître un nouveau livre « J'ai couru vers le Nil ». Ce sera le premier des artistes de cette après-midi au studio 105. Suivront Claire Denis, Agnès B. et Jérôme Bell. Vous pouvez bien sûr venir assister à ces masterclass qui sont toujours en public. Pour ce faire, vous rendez sur le site maisondelaradio.fr. Vous naviguez pour réserver votre place pour ces masterclass de samedi après-midi. Nous, pour l'heure, nous ouvrons cette dispute avec un nouveau livre de Viviane Gornick, La femme à part, publié chez Rivage, dans une traduction de Laetitia Devaux. Après Attachement féroce, La femme à part est donc le second volet d'un récit autobiographique qui avance par notation, courte scène, réflexion et offre à son lecteur la possibilité de s'interroger sur l'essence de nos existences, avec la ville de New York comme miroir de sa propre vie. Il me semble que Viviane Gornick, mais nous allons en parler ensemble, parle justement à chacun de nous. Léonard et moi partageons le même goût pour la politique du préjudice. Le sentiment exalté d'être né dans un ordre social préétabli et injuste flambe en nous. Notre sujet, c'est la vie non vécue. Aurions-nous fabriqué cette injustice si elle n'avait pas été préexistante et prête à l'emploi ? Il est gay, je suis la femme à part. Afin que nos griefs trouvent une cible, notre amitié est tout entière consacrée à cette interrogation. En fait, cette question définit notre lien, lui offre ses contours et son langage. Elle a davantage éclairé la mystérieuse nature des rapports humains ordinaires que toutes les relations que j'ai pu avoir. Depuis plus de 20 ans, Léonard et moi nous retrouvons une fois par semaine pour une promenade, un dîner et un film dans son quartier ou le mien. Mis à part pendant les deux heures passées au cinéma, il est rare que nous fassions autre chose que parler. Il y en a toujours un pour dire « Allons assister à tel spectacle, tel concert, telle lecture ». Mais ni lui ni moi ne semblons capables de prévoir la rencontre suivante. Nos conversations sont plus satisfaisantes que toutes celles que nous avons pu connaître et il nous est insupportable d'en être privés plus d'une semaine. C'est ce que nous ressentons pendant nos discussions qui provoquent cette si forte attirance l'un envers l'autre. Il m'est arrivé d'être pris en photo par deux photographes différents dans la même journée. Chaque cliché me ressemble, mais sur l'un, je trouvais que mon visage avait l'air brisé, comme s'il possédait plusieurs facettes, et sur l'autre, il est en un seul morceau. Léonard et moi, c'est pareil. L'image de soi que chacun projette sur l'autre est l'image mentale que nous avons de nous, celle qui nous permet de nous sentir complets. Voilà pour cet extrait de La femme à part de Viviane Gornick. Bon, j'ai choisi celui-ci parce que Léonard, effectivement, revient tout au long du livre, mais j'aurais pu choisir une cinquantaine d'autres extraits, une centaine, enfin. Parce que ce livre, j'ai commencé à... Vous savez, quand on commence à cocher des phrases, à en souligner d'autres, à corner des pages, et puis quand on le fait à toutes les pages, on se dit que peut-être il se passe quelque chose dans le livre. Elisabeth Philippe, sur La femme à part.
Alors, La femme à part, vous l'avez dit, forme un diptyque avec le précédent livre de Viviane Gornick, Attachement féroce, qu'on a découvert en France il y a un an, mais Attachement féroce datait, le début des années 80.
80.
Donc, Viviane Gornick, c'est une figure majeure du féminisme américain, du féminisme radical. Elle était journaliste, notamment pour le Village Voice, et c'est son article, un de ses articles dans le Village Voice, le premier d'ailleurs qu'elle ait jamais écrit, qui a véritablement lancé ce mouvement, donc cette troisième vague du féminisme. Et Attachement féroce était le récit d'une émancipation. C'était l'émancipation d'une femme, l'émancipation notamment de son quartier d'enfance, le Bronx, et de l'attachement fusionnel et quelque peu pathologique, donc l'attachement à sa mère. Sa mère qui est évidemment encore présente dans La femme à part. Et finalement, La femme à part reprend le même dispositif qu'Attachement féroce, à savoir une déambulation et dans l'espace, dans New York et dans le temps, puisqu'on navigue constamment entre le passé et le présent. On retrouve donc la figure de la mère, évidemment, lorsque Viviane Gornick se souvient de son enfance. Également cette figure de Leonard, donc cet ami gay avec qui elle partage, écrit-elle, un très net penchant pour le négatif. Et voilà, et ce livre donc est constitué de petite scène, puisqu'on marche constamment, l'accompagne avec elle dans ses pérégrinations new-yorkaises, que ce soit dans le West Village ou donc dans le Bronx lorsqu'elle se remémore son enfance. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser aux photos de Bérénice Abbott, par exemple, qu'elle évoque d'ailleurs dans le livre, ou de Viviane Mayer, une autre Viviane. Ce sont vraiment des scénettes prises sur le vif, presque des micro-nouvelles en elles-mêmes de deux, trois lignes. Viviane Gornick, vraiment avec très peu de mots, parvient à nous rendre compte d'un couple, notamment une rombière new-yorkaise avec la maigreur d'une alcoolique. En vison qui se promène avec son mari et qui dit à son mari mais quel délicieux samedi, et quand Viviane Gornick rapporte ça à son
Pardon ? Parce qu'elle, elle est émue de voir ça. Elle dit, c'est merveilleux.
Oui, absolument. Ce couple qui s'aime. Et donc, elle rapporte cette scène magnifique à l'une de ses amies qui lui dit, mais évidemment, enfin, est-ce que cette femme a pu connaître de mauvais samedis? Donc ça, c'est assez drôle. Rappelons en plus que Viviane Gornick elle-même vient d'un milieu communiste, très militant. Et on progresse vraiment dans ce livre, pour prendre une expression de Montaigne, écrivain d'ailleurs auquel Gornick se réfère aussi. On progresse à saut et à gambade. C'est pas du tout linéaire, c'est vraiment une forme de dérive, de flânerie. C'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce texte, c'est que Viviane Gornick donne fait du flâneur une figure féminine. Jusque-là, le flâneur, c'est chez Baudelaire ou Walter Benjamin, c'est un homme. Et là, c'est une femme dans la ville. Une femme qui fait vraiment corps avec la ville, avec ce New York, qui est le reflet qui reflète ses émotions, sa psyché. Et ça, je trouve ça très, très beau. Et c'est le prétexte pour Gornick, dérouler une méditation sur sa vie de femme, les choix qu'elle a fait. Elle parle notamment de ses anciens compagnons, de ses maris. Elle a quelques pages très crues sur sa sexualité en particulier. Une réflexion, une méditation sur sa solitude, donc le choix qu'elle a fait de vivre seule. Et puis aussi sur la vieillesse, c'est un thème qui est très, très présent. Il y a notamment cette scène bouleversante où elle raconte le moment où l'un de ses amis acteurs, qui était un des plus grands interprètes des pièces de Beckett, qu'on vit quelques amis chez lui, ça donne à une lecture de Beckett absolument bouleversante.
Lucille Como, à présent, premier regard sur ce livre de Viviane Gornick.
Oui, c'est un livre qui est très réjouissant et en même temps qui est assez amer. Moi, j'en suis sortie avec une impression aussi de tristesse parce que ce qui est décrit, à mon avis, enfin, je ressens comme ça, c'est une ville qui n'est plus la ville new-yorkaise d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très qui regarde beaucoup vers le passé de New York. Elle le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, à quel point ça a changé et à quel point elle voit toujours New York comme quand elle arpentait Manhattan depuis son Bronx natal dans les années 60. Et c'est assez troublant de voir la distance encore, je trouve, que produit le texte de Viviane Gornick. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est... y a en effet le côté très fragmenté des choses vues à la Baudelaire, des poèmes en prose ou des petites nouvelles. Et il y a le trait... Parce que c'est aussi un traité, c'est un traité sur l'amitié. Et ça me frappait, ce que vous disiez, Arnaud, tout à l'heure, en disant, oui, je cornais, je soulignais. Moi aussi, je me suis mise à d'un seul coup, frénétiquement, souligner des tas de phrases en me disant, ah mais oui, mais c'est exactement oui, ça que ça. Je ressens. Et j'avoue que c'est peut-être très français comme réaction, mais je me méfie toujours des livres qui me parlent directement. Ah. J'ai toujours l'impression de me faire un peu arnaquer, je sais pas comment
dire. Avoir,
voilà,
plutôt.
Me faire avoir, que ce soit trop brusque comme rapport, trop direct. Et il y a quelque chose, en effet, quand même, de l'édification dans son livre. Il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup de choses qui s'adressent à la morale humaine.
Ah, mais il y a beaucoup de contes, beaucoup de fables dans ce livre.
Pas seulement, il y a aussi beaucoup de formules.
Morale.
Voilà. Et ça, pour moi, lectrice, c'est difficile à soutenir comme type de lecture. Après, évidemment, tout ça est parfaitement monté, parce que c'est vraiment un montage dans une structure extrêmement intelligente. Enfin, moi, c'est ça qui me frappe le plus, c'est le rapport qui est d'une intelligence folle entre des passages théoriques, justement, parfois sur l'amitié ou sur tel ou tel autre auteur, parce qu'elle parle aussi beaucoup de littérature dans le livre, et une petite anecdote qui n'a l'air de rien, qui en effet fait quatre lignes, qui sont souvent sous forme de dialogue d'ailleurs. Ça m'a frappée, avec une chute à mourir de rire ou une cruauté absolument éclatante. Ça, c'est vraiment formidable. C'est à mon avis dans le montage et dans les blancs qu'il faut lire ce texte.
Bon, alors est-ce que c'est très français de ne pas aimer ça? Tout d'un coup, je me sens pas français, alors du coup, puisque j'aime, moi, qu'on me parle aussi parfois directement de façon presque évidente. Mais Florent Georgescu, qu'en a-t-il pensé de ce livre, La femme à part?
En français, donc, mais parce que... Je reviens sur Léonard. Vous avez raison de commencer avec lui, parce que de toute façon, elle commence avec lui, elle finit avec lui, il est partout. C'est pas du tout un livre sur Léonard, mais Léonard a à peine besoin d'exister comme personne à part entière, tant il est Viviane Gornick. Elle insiste sur ce miracle absolu d'une amitié qui est une imprégnation mutuelle, une évidence dans le rapport l'un à l'autre. Mais Léonard est aussi essentiel dans le livre parce que, pour rejoindre ce que Lucille disait sur la forme de ce livre, c'est une forme de conversation. Justement, la conversation est à la fois dans ce livre un des sujets, la forme et peut-être la morale des morales. Et c'est même presque la clé du portrait de la ville, qui est une des choses les plus belles, je trouve, du livre, ce portrait de New York, comme portrait d'un bruissement. Elle parle de manière extrêmement émouvante du fait de descendre dans la rue pour se retrouver au milieu d'une humanité en train, je ne sais plus comment elle dit exactement, mais en train de chercher sa forme, de chercher son humanité, justement, en se parlant. Elle attrape, vous l'avez tous mentionné, elle attrape au passage beaucoup des conversations qu'elle entend. C'est souvent extrêmement drôle ou touchant ou un mélange des deux. Ou alors même, parfois, sans intérêt. Et c'est peut-être le plus riche, au fond, parce que ce qu'elle veut faire entendre, c'est le bonheur de la voix humaine, c'est le bonheur de la conversation. Et ce livre à Sceaux et à Gambade dont vous parliez, Elisabeth, est une sorte de quintessence de la parole humaine. Et justement, en effet, c'est quelqu'un qui vous parle au plus près. Elle dit à un moment quelque chose de très beau sur la conversation. Justement, elle dit au fond que c'est le drame de sa vie, qu'elle a toujours cherché cette conversation parfaite. Et au fond, on comprend, c'est une des voies pour devenir écrivain assez limpide. En tout cas, chez elle, on voit très bien qu'au fond, l'absence, le plus souvent jusqu'à Léonard peut-être, d'interlocuteurs de qualité, l'a forcé à s'adresser à nous, en quelque sorte, c'est-à-dire à n'importe qui. Elle dit... J'errerai pour le reste de ma vie dans le purgatoire de l'exil volontaire, toujours en quête de la bonne personne à qui parler. Et donc voilà, c'est une femme plongée dans la foule bruissante qui entend cette voix humaine avec bonheur, mais qui y cherche autre chose qui dépasse ça. Et en cherchant cela et en racontant comment elle le cherche, elle trouve la forme la plus littéraire qui soit, et en même temps la plus hasardeuse, la plus sous la forme d'une promenade, en effet, mais d'une conversation au hasard. On voit bien qu'elle construit son livre aussi en, par association d'idées, un sujet, hein, la fin d'une anecdote lui fait penser à quelque chose et ainsi de suite. Et on arrive à un portrait extrêmement intime à travers cette projection de soi dans, la, dans le bruit et la voix. La grosse voix de la grande ville. Et c'est une des choses extrêmement touchantes. Elle parle de ça de manière à, d'une manière que j'ai rarement vue restituée avec autant de finesse.
Les voix, c'est presque la conclusion hein, de son livre. C'est dans toutes les dernières pages qu'elle écrit. Les voix, voilà ce dont je ne peux me passer. Oui. Dans la plupart des villes du monde, on vit sur des siècles de chemins pavés, d'églises en ruine. Je passe. Si vous grandissez à New York, votre vie est une archéologie faite non pas de structures, mais de voix, elles aussi empilées, tout aussi irremplaçables. Ça, c'est... Pour abonder évidemment dans votre sens, Florent Georgescu, il y a aussi deux pages sur le après 11 septembre que j'ai trouvé à la fois d'une beauté folle et qui parle de cette ville.
Avec une chose qui est vraiment dans le grand écrivain, quand elle cristallise tout dans une image quand elle raconte qu'elle s'apprête à traverser une grande avenue.
Broadway.
Elle s'est Broadway, tout simplement, et elle s'aperçoit tout à coup que pour la première fois de sa vie, elle la voit vide. Cette image suffit à dire ce qu'a été l'après-onceur.
Sur l'île au centre de Broadway, je me rendis compte que ce que nous étions en train de perdre, c'était la nostalgie.
Exactement.
Bon, bien après, c'est vrai que vous avez parlé de ces scènes et puis ces phrases très définitives, alors qu'il me parle très directement, comme j'ai appris très tôt que la vie était soit tchékovienne, soit shakespearienne. Mmh. Bon, à partir de là, bon, elle développe, hein. Mais bon, une phrase comme ça suffit
à
faire ma journée, moi.
Elle développe de manière
extrêmement
convaincante. Je crois que ça marche.
Bah oui, ça marche.
Oui, c'est ça.
Non, mais on est d'accord.
C'est toujours ce truc que moi, je me méfie des choses qui marchent. Je sais plus quelle est la formule scientifique selon laquelle, quand une théorie scientifique marche trop bien, il faut s'en méfier. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Ça me crée un effet de méfiance, mais qui n'est pas du tout désagréable et qui ne remet pas du tout en question la qualité du livre, mais ça me fait cet effet-là.
Elisabeth Philippe.
Non, mais je voulais rebondir sur le jeu justement, enfin cette séparation qu'elle établit entre Tchekhov et Shakespeare. Et il y a aussi ce jeu auquel elle se livre avec certaines amies quand elles se racontent leurs histoires d'amour pour savoir si ça aurait pu être une histoire racontée par Henry James ou par Edith Wharton.
Donc est-ce que ça c'est Henry James ou ça c'est Edith Wharton aussi,
c'est formidable. Il y a beaucoup de pages sur la littérature et je voulais juste rebondir sur ce que disait Lucille en disant que vous aviez ressenti une forme de tristesse ou une amertume. Alors moi, pas du tout. Je trouve que c'est porté par une telle énergie. Et je trouve qu'au contraire, c'est vraiment une... C'est presque un récit d'émancipation réussi. C'est comment on peut se suffire à soi-même. Et là, je trouve qu'elle en est la plus parfaite, le plus parfait exemple. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle a 83 ans. Elle est absolument extraordinaire de vitalité. C'est formidable de se retrouver face à elle. Et je dis oui, certains critiques ont jugé votre livre un peu triste, justement du fait de cette solitude omniprésente. Ça, je n'aime pas du tout. Quand on dit ça, j'ai l'impression d'avoir été mal lu. Alors, je lui dis, alors, est-ce que vous êtes heureuse? Et là, elle me regarde avec ses yeux verts en me disant, heureuse? Non, ça, c'est pas du tout un mot de mon vocabulaire. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais voilà, j'ai appris à vivre avec la solitude, à mettre un mot dessus et à en faire quelque chose qui tienne et qui vaille le coup. Et bon, je pense que ce livre montre que ça valait vraiment le coup.
Moi, j'aurais dit tristesse, mais pas amertume, pour le coup. Je partage pas.
Je n'aperçois pas du tout
ce mot-là. La nostalgie, la mélancolie, qui amène aussi à une forme de tristesse de l'impossibilité. L'histoire, elle parle beaucoup d'amitié, qui s'achève. Celle de Léonard est très très à part, mais sur l'impossibilité de rester amoureux, de rester ami. Enfin, quand même toutes ces choses qui se défont.
Elle ne parle presque que de choses qui se finissent.
Oui, oui.
En réalité, il n'y a que New York et Léonard qui tiennent debout.
Ouais.
C'est peu.
Vaille que vaille.
Finalement, et vaille que vaille.
De façon assez différente l'un et l'autre. Bon, beaucoup de choses à lire, à mûrir, à réfléchir, à profiter de cette lecture de Viviane Gornick. La femme à part, c'est une traduction de Laetitia Devaux pour cette publication aux éditions Rivage. À suivre dans la dispute, La vraie vie d'Adeline Dieudonné à l'Iconoclaste, Frédéric Habert de Marguerite Chégrasset, et puis il y aura bien sûr le coup de cœur de Florent Georgescu.
Aha.
France Culture, La dispute.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la littérature, donc avec La vraie vie d'Adeline Dieudonné à l'Iconoclaste, avec celui de Pauline Delabroix à l'art, le livre d'Adeline Dieudonné, et l'autre premier roman qui s'est distingué dans cette rentrée littéraire particulièrement riche en premier opus. Je renvoie à l'excellente enquête d'Elisabeth Philippe. On avait parlé d'ailleurs tous quatre de cette question de comment est-ce que un premier roman sort du lot? Bah, il y en a deux cette année. Bon, on était tous les quatre ici même.
Salon,
voilà. Alors là, il s'agit du récit à la première personne d'une toute jeune fille et de quelques années dans sa jeune vie, dans l'enfer domestique d'un pavillon anonyme, régie par les colères du père, alcoolique, battant sa femme, et la narratrice, elle essaye de protéger son petit frère. À la maison, il y avait quatre chambres, la mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs et puis des têtes d'antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles, springboks, impalas, gnous, oryx, cobus. Quelques zèbres, amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un poing sur la hanche et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui lui faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. Ma mère, elle avait peur de mon père. Et je crois que si on exclut son obsession pour le jardinage et pour les chèvres miniatures, c'est à peu près tout ce que je peux dire à son sujet. C'était une femme maigre, avec de longs cheveux mous. Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer. J'imagine que oui. Elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide. Une amibe. Un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive. Et avec les années au contact de mon père, ce pas grand-chose s'était peu à peu rempli de crainte.
Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le
Non, vous n'êtes pas sur une radio nostalgique. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture et de La Dispute. Et oui, c'est la bande originale du livre d'Adeline Dieudonné, La Vraie Vie, ce téléphone pleure qui revient plusieurs fois. Ce tube magnifique, immémorial de Claude François, qui n'a pas bercé votre enfance, Lucille Comeau, puisque vous êtes née bien après le décès du chanteur blond à Franges. Mais là, on va parler d'Adeline Dieudonné, qui elle non plus d'ailleurs n'était pas née au moment où Claude François sévissait. Alors, La Vraie Vie.
Alors, moi j'ai été assez impressionnée par ce premier roman, qui est un roman à sensation, on peut dire ça dans un premier temps, et qui réussit, je trouve, dans son programme de roman à sensation, à inspirer à la fois de la peur, parce que c'est un roman à suspense, avec un mécanisme quand même assez bien rodé, et puis aussi à inspirer la tendresse, une certaine forme d'empathie pour les personnages. Vous racontiez un peu que c'est drôle, quand on entend le résumé, on a l'impression que ça peut être un roman un peu naturaliste sur la violence domestique. En réalité, c'est quand même plus une légende, puisque ce père, avec tous ses cadavres d'animaux, est vraiment une sorte de monstre ogresque. Il y a des druides, il y a des sorcières dans ce roman. Tous les personnages ont une fonction qui est une fonction du conte. Voilà, moi je suis très impressionnée déjà tout simplement par l'efficacité de la narration. Je trouve assez rare dans les romans francophones, on va dire ça comme ça. La manière, par exemple, d'introduire des nouveaux personnages à des moments clés du livre, alors qu'ils n'existaient absolument pas. Il y a un professeur de physique, puisque le personnage, pour une raison qu'on révélera peut-être pas, va se passionner absolument pour la physique, va devenir hyper forte. Et donc, au collège, on va l'orienter vers un professeur d'origine israélienne dans son quartier, qui va lui donner des cours en plus. Voilà. Il y a également un couple qui va arriver à un moment donné, qui aura aussi un rôle important dans sa vie, notamment l'éveil de sa vie érotique. Et puis à l'inverse, il y a des moments où le roman s'économise totalement des grands pans. Alors n'hésite pas à faire l'impasse totale sur par exemple la scolarité de cette fille, parce que en fait,
on passe d'un été à l'autre,
pas ce qui se passe, voilà,
on enjambe les années scolaires
d'un seul coup, et on s'en fiche. Ça fonctionne extrêmement bien, le rythme est très efficace. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à des films américains, du coup, et beaucoup aux films de Spielberg, parce qu'évidemment, l'héroïne étant un enfant, et le point de vue enfantin, je le trouvais extrêmement réussi, comme peuvent l'être, de ce point de vue-là, des films de Spielberg. On pense à des films de revanche, les grands films de vengeance américains. Le film n'épargne pas de grandes scènes horrifiques, donc évidemment, on pense aussi aux films d'horreur et aux films à suspense. Et pour autant, à mon avis, les personnages ne sont pas réduits à des fonctions de conte ou à des types de films américains, et je pense que c'est là le style qui réussit à entrer dans la structure un peu raide de la légende ou du conte, fait qu'on arrive à s'intéresser de manière assez primaire à ces personnages-là, notamment les deux enfants, donc le personnage dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs, du jeu, et son petit frère. Moi, je l'ai lu d'une traite, j'étais quand même assez impressionnée.
Florent Georgescu, au premier regard, ce livre d'Adeline Dieudonné. Ah, il soupire.
Par quoi commencer? Je ne sais pas, peut-être par l'impression que j'ai dû me tromper de livre.
Quand vous écoutez Lucille.
Quand j'écoute Lucille, je suis désolé, mais ce petit machin vide, sec, qui joue avec quelques vagues archétypes,
vous parlez du livre, là,
identiques. Oui, on parle du
même. D'accord. Non, mais ce petit machin sec, je savais pas de quoi vous parliez, en fait.
De chaque élément de ce livre et du livre tout entier lui-même.
On reconnaît bien là votre mesure.
Écoutez, je ne vois pas pourquoi on serait mesuré quand il n'y a rien, il n'y a rien. Faut le dire. Il y a beaucoup d'autres bons livres sur lesquels on peut être d'une mesure jésuitique. Mais, en l'occurrence, je ne vois pas de quoi vous parlez, en fait. Nous avons donc un père chasseur, insistons sur chasseur, il est méchant, il tape sa femme, c'est le mal. À quel moment évolue-t-il? À quel moment est-il autre chose que ce qui a été décrit de lui à la première apparition? Sincèrement, à aucun moment, vous pouvez
quand
pas me
dire.
Quand
il pleure en écoutant Claude François.
Oui, quand il pleure en écoutant Claude François, vous savez très bien que c'est une. Oui, évidemment, il est malheureux. D'accord. C'est un choc pour le lecteur de s'apercevoir que cet homme, en plus, est malheureux. La mère, le personnage de la mère, qui est qui est d'ailleurs un portrait assez dégueulasse, est un personnage. Enfin, vous avez d'ailleurs dans l'extrait que vous avez cité, Arnaud, il y a ces passages sur l'ami, ou je sais pas quoi.
Oui, mais elle évolue pour le coup. C'est un personnage qui évolue et qui bouge beaucoup à la fin.
Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle se rapproche de sa fille.
Oui, pas seulement, oui. Enfin, comme vous disiez, ça n'évolue pas.
Je ne vois pas du tout en quoi.
On ne peut pas raconter la fin du livre ici, mais ça n'est pas parti.
Oui, à la fin, évidemment, il y a une petite scène spectaculaire pour donner l'idée qu'on n'est pas loin du cinéma américain. Bon, d'accord. Mais quel est l'intérêt à quel moment, franchement, avez-vous pu être surpris par ce livre? À quel moment, l'extrait que vous avez lu toujours, Arnaud, il y a cette hyène qui apparaît. Oui. Vous n'avez pas tout de suite deviné que cette hyène allait avoir un rôle magique? Elle le dit presque déjà. Il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas où tout n'est pas téléphoné, tout est
téléphone pleure, c'est ça?
Oui, justement, oui, c'est voilà. Téléphoné comme une chanson de Claude François. Enfin, je ne vois pas, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Voilà. Est-ce qu'Elisabeth Philippe voit des choses dans la vraie vie?
J'ai vu des choses. Alors, non, au départ, je dois avouer que j'étais un peu dubitative. J'ai un problème avec les voix d'enfants. les narrateurs enfants, c'est toujours un problème
nous
pour moi.
Nous sommes là pour parler de vos problèmes,
Elisabeth. Non, mais en littérature, en tant que lectrice, et c'est pas toujours réussi, là je parle en tant que critique, et non, je ne fais pas mon analyse comme ça en direct sur ce plateau. Voilà, toujours ce mélange de candeur. En fait, il y a deux parties dans ce texte. Donc une première partie, c'est encore l'enfance, où elle, face à l'horreur qui est celle de sa vie quotidienne dans cette famille avec ce père, la narratrice se réfugie dans les histoires et mise beaucoup sur le merveilleux et l'imaginaire pour se protéger. Et puis, un événement fait qu'il y a la fin de l'innocence et la deuxième partie est beaucoup plus brutale, réaliste. Et bon, la première partie, malgré ce mélange de candeur et de noirceur, me convainquait sans me convaincre. Je trouvais que ça faisait un peu Amélie Nothomb des débuts, une Amélie Nothomb qui aurait travaillé, qui ne bâclerait plus ses livres. Ça, c'est quelque chose qui m'a été soufflé par Grégoire Le Ménager, mon collègue, je le reprends parce que je trouve que c'est assez juste. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Certes, c'est pas d'une originalité folle, comme l'a dit Florent. Ensuite, il y a quand même un petit quelque chose en écriture. Je trouve qu'il y a des formules assez amusantes, un petit décalage, si on veut empiler les clichés, tout belge, une certaine forme de surréalisme.
Ah, elle est belge.
Dans certaines... certaines comparaisons, certaines images, il y a aussi des dissonances brutales, je trouve qu'ils sont assez efficaces justement dans ce récit assez naïf et puis par moments quelque chose d'une très grande cruauté qui est balancée comme ça, notamment effectivement quand elle parle de sa mère comme d'une abîme. Moi j'ai trouvé ça plutôt drôle.
Non, oui, ensuite, elle le fait 50 fois dans le livre.
Elle le fait 50 fois, certes. Mais j'avoue que plus le livre progresse, plus il est violent, plus il est réaliste, plus j'ai été touchée. Et en fait, je me dis que si ce livre fonctionne aussi et a autant de succès, moi ça m'a rappelé beaucoup de livres qu'on lit en ce moment. Je trouve que ça va devenir un genre en soi, celui de la fille séquestrée, notamment le livre de Gabrielle Tallent, My Absolute Darling, qui a eu énormément de succès l'an dernier, un livre américain, mais on peut penser aussi à Margaret Atwood ou à Charlotte Wood. Enfin, ce sont vraiment, c'est une thématique omniprésente actuellement dans la littérature. Voilà, et je pense qu'il y a aussi cet effet-là, peut-être
petite différence entre cet auteur et Margaret Atwood, nous serons d'accord, je pense.
Margaret Atwood, qui, cela dit, je vais dire une horreur, mais je ne trouve pas que ce soit une très grande styliste.
Il y a un tout petit peu plus d'imagination.
Voilà, on est d'accord.
L'imagination, pas le style.
Mais bon, ça, voilà, au départ, moi, je trouvais que ça faisait un peu Barbe Bleue pavillonnaire, et ça évolue vers quelque chose qui tend plus vers... une Atwood belge.
Atwood belge, on va dire ça comme
c'est
ça.
C'est méchant pour les Belges.
Alors moi, je l'ai lu sans souligner de phrases.
Un peu difficile de souligner des phrases. Sauf si on veut être méchant.
Pour être un tout petit peu du côté de Florent Georgescu.
Mais ça ne va pas durer.
Mais non, mais j'ai pas énormément de choses à dire sur ce livre que j'ai lu sans désintérêt. Je l'ai lu assez rapidement également et je pense que c'est quand même peut-être la bonne façon de faire parce qu'il y a quelque chose qui tient. Si notre camarade Philippe Chevier était là, il emploierait un mot anglais pour dire que c'est un livre qui fait tourner les pages.
Donc je ne dirais pas. Mais personne ici ne ferait une chose pareille.
Non, bah jamais. Et donc moi je suis d'accord là pour le coup avec Lucille Comeau sur l'efficacité de ce livre-là.
Mais franchement, vous avez été surpris par moments dans ce livre. Vous trouvez vraiment qu'il y a des rebondissements
étonnants. Moi j'ai même écrit, je peux même vous montrer une page où je me suis vraiment demandé où est-ce que ça pouvait bien aller. Et notamment à l'introduction de ces personnages nouveaux et du soudain amour de l'héroïne pour la physique. Vraiment, je me suis vraiment posé la question, par exemple, de la réalisation possible du côté fantastique du livre. Je me la suis posée plusieurs fois. Ça reste assez solide.
Oui, mais là, vous vous demandiez où l'auteur...
J'ai eu peur pour vous rassurer. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais plusieurs fois sur la qualité du livre. Mais honnêtement, justement, j'ai été assez surprise qu'il ne tombe pas dans tous les travers que je pouvais lui prêter au départ.
Oui, comme avec la femme du professeur aussi, qui est un personnage qui, tout d'un coup, qui surgit, mais qui est une... Mais je trouve qu'elle, là où je vous rejoins, c'est qu'elle arrive à faire exister des gens avec assez peu de choses, mais...
Prenons l'exemple de la femme du professeur.
Alors,
avec assez peu de choses, mais je ne veux pas trop déflorer, puisque des gens prennent du plaisir à le lire, tant mieux pour eux.
Donc, ils sont nombreux, a priori.
Ils sont nombreux, oui, donc ils ont raison.
Non, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'ils étaient nombreux. Oui, bah, c'est pas mal les phrases, Florent Georgescu, avec votre mauvaise foi.
C'est pas dans mes habitudes. C'est un très bon exemple, la femme du professeur. On voit en effet apparaître à un moment, dans un recoin de la maison du professeur, cette femme, qui a l'air très mystérieuse. J'en dis pas plus.
Elle fait peur, surtout.
Elle fait peur par quelque chose. Et au bout d'un moment, on finit par avoir l'explication complète de sa situation, qui est une histoire où on s'aperçoit que c'est une merveilleuse héroïne qui a été très généreuse, grandiose, etc. C'est-à-dire que là où il y avait peut-être l'esquisse d'un personnage mystérieux, on sombre immédiatement dans des bons sentiments absolument misérables qui, de toute façon, vous ne pouvez pas me dire le contraire, quand bien même vous trouvez ces bons sentiments épatants, qui de toute façon aplanissent tout mystère.
Il y a de l'ironie partout dans ce livre. Enfin, honnêtement, moi je pense que c'est drôle.
Le coup de l'ironie.
Ah bah, c'est pas
tout ce qui est médiocre peut toujours se défendre en disant c'est ironique.
Pas,
j'ai entendu des gens dire Fuenquinos, c'est ironique.
Ah
oui, allons-y,
eux-mêmes
toute médiocrité peut prétendre. Comment ?
Je dis eux-mêmes, ces gens qui disaient ça devaient l'être aussi.
Sans doute, mais alors on n'en finit jamais avec l'ironie.
Non,
c'est pas ironique.
Je pense que si.
Bon, bah alors.
Vos avis divergent, c'est un peu le principe de l'émission.
Si tout est ironique dans ce livre, quel.
Non, justement, tout n'est pas ironique. Il y a un problème de tout.
Juste quand on prend un exemple précis.
Je pense aussi qu'il y a un problème de tout.
C'est ironique seulement quand on prend un exemple précis.
Ah non, pas du tout, parce qu'il y a des moments pas ironiques qui, moi, m'inspirent quelque chose que je décrivais de premier degré, de frayeur, de,
mais est-ce
qui est
vous
totalement
vous rendez compte
premier
de la
degré.
Vacuité du personnage du frère, qui devrait quand même être
oui.
le personnage central.
En fait, moi, je crois que tous les personnages sont vides et ça ne me pose pas de problème.
Bon, bah, voilà. dans ce cas...
Raison là
excusez-moi, mais
Il y a d'autres livres où ça me pose des problèmes. Là, je trouve que... parce que le mécanisme du récit suffit à... créer un intérêt pour le livre. Après, je ne dis pas que c'est un grand livre de littérature.
Mais vous
je dis juste que c'est
vous
un livre efficace.
Vous vous rendez compte que vous pourriez
efficace.
Dire ça
le temps passe et votre coup de cœur se réduit
du dimanche après-midi sur M6.
Ah, mais c'est certain. M6, enfin. S'il était bien fait, je pourrais probablement
Il est aussi bien fait que ça. Les mécanismes de récit, tout le monde sait faire ça aujourd'hui. C'est...
Non.
Bah non.
Est-ce qu'on
non,
est alors, là, est-ce alors, là, on en parlait bien
sûr. Regardez la production de base de la télé américaine. On est peut-être là pour chercher autre chose que ces petits mécanismes bien faits.
C'est vrai qu'il y a un petit côté Stranger Things, maintenant que j'y pense.
Bah oui, tout à fait.
Alors, comparons. Vous pensez vraiment pas qu'il y a une richesse un tout petit peu plus grande dans cette série
Non, pas du tout. On en a déjà parlé ici, on va pas refaire la dispute sur Stranger Things.
Mais franchement, vous avez raison de faire des critiques à Stranger Things, mais franchement, vous trouvez que ce petit machin.
Vous n'allez pas nous convaincre,
est plus riche que ça.
Florent Georgescu. Gardez un peu de.
On n'a pas parlé de chef-d'œuvre non plus. Hein.
Vous parlez d'un livre intéressant, moi je vois pas pourquoi il est intéressant.
Si, il est intéressant dans le créneau dans lequel il se garde.
C'est quoi ce créneau?
C'est le
créneau de la commerciale.
Non, pas du tout. Ça ne veut rien dire.
Vous voulez sacrifier votre coup de cœur
à sensation.
Vous voulez sacrifier votre coup de cœur?
Non, parlons de bon livre, vous avez raison.
C'est presque le cas.
Presque.
On parlait d'un bon livre.
Tout est dans presque. Non, mais je vous en rajouter
celui d'Adeline Dieudonné, La vraie vie, aux éditions L'Iconoclaste. Allez, faites-vous plaisir, mais rapidement. Florent Georgescu avec un coup de cœur pour Répertoire des métiers imaginaires. Laissez-moi dire le titre de Rémy Le Boissetier aux éditions du Sandre.
Exactement. Ben voilà, vous voyez, on peut être d'accord sur quelque chose. C'est Répertoire des métiers imaginaires. Je peux aller assez vite parce que le concept est assez simple. L'auteur a cherché dans la littérature, essentiellement littérature du 19e siècle, première moitié 20e, l'ensemble des métiers inventés par des auteurs. Pardon, des métiers qui apparemment n'existent pas. On trouve par exemple chez Swift, donc là on remonte plus loin, un domestique frappeur. Qu'est-ce qu'un domestique frappeur ? C'est quelqu'un qui se tient près de savants, dans une des peuplades qu'explore Swift, avec un bas plein de cailloux dedans, et ce savant ne pensant jamais à la réalité, ne sachant jamais ce qu'il doit faire, ne pensant pas aux choses pratiques et risquant en permanence d'y perdre sa vie, le domestique le frappe à la moindre incartade, à la moindre distraction. Il y a par exemple le poseur de deuil chez Henri Michaux, quand les familles ne sont pas assez affligées à la mort d'un de leurs proches, quelqu'un débarque, qui a l'art d'inspirer plus que la mélancolie et qui, grâce à sa présence, au bout de quelques minutes, fait pleurer tout le monde. Il revient deux jours après, une fois le deuil fini, et est capable d'inspirer, au contraire, la plus grande gaieté pour que les gens reprennent une activité normale. On peut parler aussi de l'agence Caribert Pestel et Compagnie, inventée par Catulle Mendès, qui est une agence qui vend des vandalismes gradués. Gradués selon certaines espèces et selon les diverses espèces et les divers degrés de l'envie et de la haine. Catulle Mendès explique que un drame touche l'humanité, c'est la beauté qui rend jaloux, la beauté qui rend fou. Il faut calomnier la beauté, il faut cracher sur la beauté, et il inspire cette agence capable de cela. C'est un très beau livre qui finit par faire une sorte de panorama assez curieux de l'activité humaine à travers ce qu'elle n'est pas, à travers son double imaginaire. On reconnaît toutes les passions humaines. Il y a beaucoup de choses sur la mort. Le deuil de Michaud n'est pas le seul. On est au cœur de l'expérience humaine en passant par les biais les plus étonnants. C'est un très beau petit livre, extrêmement joli, extrêmement bien édité aux éditions du Cendre, qui sont des éditions spécialisées dans les curiosités et qui ont vraiment l'art d'en dénicher, puisque pardon,
c'est le cas.
Puisque voilà un très beau petit livre.
Qui s'appelle « Répertoire des métiers imaginaires » signé Rémi Le Boissetier.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
La dernière séquence de cette dispute littérature avec Federica Baird de Mark Green, publié chez Grasset. Au départ de ce roman, la lecture d'un fait divers, question d'un couple retrouvé mort dans les Dolomites, peut-être victime d'une certaine Federica que le narrateur a connue, aimée des années plus tôt. Il va mener à sa façon l'enquête. J'ai tourné les premières pages du journal, glissé sur les rubriques France, abordé l'international. Une miette est tombée sur la feuille, une miette concave, détachée de la croûte dorée. Je l'ai observée pendant quelques secondes. L'association de la miette et du journal n'était pas visuellement désagréable. Bien sûr, le gras du croissant imprégnait le papier, le dégradait, mais ce compagnonnage n'était pas de mauvais aloi, il y avait là quelque chose d'harmonieux. Est-ce la miette qui a attiré mon attention sur l'article ? En aurais-je pris connaissance sans elle ? En tout cas, après quelques secondes d'observation, la miette et autour d'elle une petite auréole grasse, mon regard s'est déporté légèrement vers la gauche et j'ai lu « L'étrange affaire des Dolomites ». J'ai comme dans l'idée que Florent Georgesco venait d'expliquer pourquoi ça, c'est de la littérature. Federica Baird, Mark Green chez Grasset.
Oh non, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Nos auditeurs n'ont qu'à lire eux-mêmes, ils s'en apercevront tout de suite.
C'est pire encore.
Ben oui, c'est pire.
C'est pire encore.
Ça avait l'intention d'être pire. Mais non,
bah, c'était évidemment ironique peut-être.
Non, arrêtez avec l'ironie, moi je ne crois plus à l'ironie. Si l'ironie est ce qui permet de faire passer le vide pour le plein, arrêtons avec l'ironie.
Allez,
là voilà justement un peu de plein. Parlons un peu de ce qui peut se passer dans un livre. En l'occurrence, la création d'un univers absolument unique, par touches discrètes, et qui laisse même l'impression au bout du compte qu'on ne sait pas quel est cet univers qu'on a traversé. Il a l'art de créer à partir du mélange du souvenir et de l'imagination un espace unique qu'il sait faire circuler sous toutes les formes dans son livre. Il faut raconter que il replonge donc dans ce souvenir de relative jeunesse. D'ailleurs, c'est 20 ans avant quand il rencontre.
Il en avait déjà 30.
Il en avait 35, oui. 35, et cette jeune femme était plus jeune. Il la rencontre dans une salle de jeu. 20 ans avant, il y avait encore, vous savez, des salles avec des machines.
Oh, c'est très bien.
Pour jouer. Enfin, je parle pas des casinos. Mais,
jouer à Tekken.
À Tekken.
Qu'est-ce que j'ai pu jouer à Tekken ?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être un livre qui a des références qui sont bien pour notre génération. Et il voit cette femme qui l'entraîne boire des verres et surtout qui progressivement l'entraîne jusque sur un toit. L'un des foyers du livre, ce sont ces scènes de toit. Elle a réussi à trouver, en passant par la lucarne de sa cuisine, l'accès à une vieille terrasse condamnée que plus personne ne connaît, qui demande un peu d'escalade pour être rejointe. Et il finit par passer une nuit là. À un moment, elle le laisse. Il est seul dans le ciel de Paris. Et au fond, tout se passe, tout rayonne à partir de cette scène-là qui revient au moins dans ses souvenirs au fur et à mesure du livre, et qui l'entraîne assez près des Dolomites. En fait, les circulations dans le livre sont faites autour de visions et de choses imaginaires, puisque en effet, il se lance progressivement et le roman alterne les scènes de souvenirs de la rencontre avec cette jeune femme et les scènes au présent où il enquête. Oui, en tout cas, il commence par lire la presse sur ce fait divers puisque le nom de cette ancienne amie a été prononcé comme suspecte. Et il glisse dans cette enquête-là, peu à peu, sur une imagination de ce qui a pu réellement se passer. Et donc, on a plusieurs niveaux qui finissent par se mêler, qui en quelque sorte tournent autour de ce ciel de Paris et de ce toit où il était isolé, et qui est comme une autre falaise semblable à la falaise dont les personnages sont tombés. Et il se projette, au sens littéral, dans la chute de ces personnages, puisque donc ces deux personnages sont... On fait une chute très profonde, très longue,
et très mortelle.
Il entre dans cette chute très mortelle et très
bizarre. Elisabeth Philippe.
Oui, alors je voudrais rebondir tout de suite sur la façon dont Florent a introduit ce texte en parlant d'un espace unique. Certes, c'est un texte que j'aime plutôt bien, mais c'est un texte éminemment modianesque. Le simple titre, pour moi, il y a tout de suite des échos à Dora Bruder. Et je pense que lui-même est conscient de marcher dans les pas de Modiano. Il y a énormément d'allusions, de clins d'œil, le répertoire, l'annuaire qu'il consulte pour retrouver le nom de cette jeune fille. Beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment sur lequel l'ombre de Modiano planait.
C'est une part du livre, indéniable. Je ne suis pas sûr qu'on...
Modiano en moins bien. Elisabeth Philippe, poursuivez, parce qu'on ne va pas y arriver.
En épigraphe, il y a une phrase de Guy Debord, et on a aussi affaire dans ce livre, un peu comme chez Viviane Gornick, mais de façon tout à fait différente, à une dérive. C'est vraiment une dérive dans ses souvenirs, dans cette imagination, effectivement, pour savoir ce qui a pu arriver à ce couple retrouvé mort. D'ailleurs, la description du couple, enlacé au pied de la falaise avec un drap sur le visage, tout de suite, j'ai vu le tableau de Magritte, les amants, vous savez, avec ces deux visages voilés. Non, il y a quelque chose de très nostalgique, mélancolique. C'est aussi une quête impossible d'une jeunesse perdue. Là aussi, si on veut encore citer Modiano, le café de la jeunesse perdue.
Mais il y a quand même tout à fait autre chose.
Et vous parliez aussi de plein et de vide.
Laurent, laissez parler.
Oui, s'il vous plaît. Le vide est central, en fait, puisque c'est un livre construit autour d'une absente, autour d'une figure qu'il voudrait laisser dans un angle mort, il le dit. Et c'est à partir de ce vide qu'il crée et qu'il déploie toute son écriture et effectivement cette histoire hypothétique, ce qui aurait pu arriver à ce couple. Donc non, moi je trouve que c'est un livre assez délicat, assez fragile aussi dans sa structure même. Il le dit, vous l'avez dit, Florent, on est à la fois sur ce toit, sur ce Dolomite, sur cette montagne, cette falaise. Donc il y a toujours, on est toujours au bord du vide, de l'abîme, et lui-même le répète souvent, sur une ligne de crête. Et je trouve que c'est un livre, un roman qui se tient sur une ligne de crête.
Lucille Comeau à présent sur ce livre de Marc Green.
Oui, alors Florent, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais je me suis vraiment beaucoup ennuyée, moi, à la lecture de ce roman-là, dont j'ai saisi en effet le fonctionnement que vous avez décrit, qui, moi, me semble très duel, et ça manque un peu de mouvement entre, en effet, le régime de ses souvenirs et le régime de la narration en train de se créer. Je trouve ça même assez naïf, en fait, comme je me suis dit, bon, si c'est que ça, oui, la vie inspire le roman. J'ai du mal à y voir un intérêt, d'autant plus que je trouve que la fin règle la chose de manière assez systématique, en mettant en effet en parallèle des objets ou des impressions qui sont celles du narrateur et qu'il attribue à certains des personnages, qu'il distribue, entre les personnages, le foulard rouge, oui, la peur, le vertige. Je trouve pas ça passionnant. Par ailleurs, je trouve que Sur les deux régimes de narration, on a du mal, alors pour le coup, moi, ça m'a fait ce problème-là pour ce livre-là, à s'attacher à qui que ce soit. Et notamment ce personnage de Frédéric Habert qui, je veux bien le croire, est un vide et quelque chose qui aspire la narration, est pour moi tellement désincarné de la même manière comment que le sont les autres personnages que je n'arrive pas du tout à m'intéresser au principe même d'enquête qui est le moteur de la narration.
Je vois elle peut dire ça, hein, mais moi je peux.
Vous savez, je peux dire que vous êtes blonde, Arnaud. On peut tout. Oui.
Non mais moi je partage absolument l'ennui de Lucile Comeau, pardon, hein, Florent. Moi je n'ai pas fait exprès non plus parce que là Modiano, il a les bras menton parce que bon, ce serait vraiment. C'est une dure comparaison pour lui, mais comme je ne connaissais pas encore Margaret, j'ai cru que c'était une sorte d'adolescent, vous voyez, parce que c'est tellement, pour moi, empli de clichés romantico, poète-poète, sur Paris, nostalgie. Vraiment, moi, j'ai été un peu effondré par ce livre.
Quoi, par exemple,
Laurent. Nous avons déjà parlé
de l'œuvre de Margaret dans cette émission.
Mais toutes les pages, mais j'avais peut-être pas lu son livre à ce moment-là, je le dis à chaque fois quand je n'ai pas lu les livres. Là, je l'ai lu et franchement...
Quel cliché, j'aimerais savoir.
Ah mais à toutes les pages. Il y en a à toutes les pages. Si vous voulez faire ça, ouvrez-le n'importe où.
Si je peux juste finir, j'étais d'accord sur le qualificatif de délicat. Je pense que c'est en effet de l'or. Mais voilà, ouais. Avec ce que la délicatesse peut avoir d'une fragilité qui, à mon avis, moi, a du mal. À un moment donné, le personnage principal raconte que quand il était jeune, il a voulu faire, je cite, du cinéma narratif psychologique un brin littéraire. Bon, si on continue à essayer de comparer les romans au cinéma, pour moi, c'est ce type de film. Si le livre avait été un film...
Il est possible que vous n'ayez pas senti l'ironie, enfin bon, ça m'étonne de vous.
Non, mais en fait, là, pour le coup, je sens souvent l'ironie, mais je ne vois pas ce que le livre propose d'autre que ce régime-là.
Non, mais l'ironie n'est pas seulement dans le livre, comme dans tous les bons livres, ça ne s'arrête pas à l'ironie. Je peux répondre deux, trois trucs.
Oui, il reste 2 minutes.
Dire que Frédéric Habert est un personnage éthéré, c'est extrêmement drôle, excusez-moi. C'est burlesque. Qu'est-ce qui est éthéré dans les mouvements de cette fille, dans le dialogue, dans le qu'est-ce...
J'ai dit désincarné.
Oui, elle ne croit pas une seconde.
Mais non, une partie de sa vie reste un mystère, mais quand elle est là, elle est extrêmement présente.
C'est une vision d'adolescent, donc c'est complètement.
Non, là, je suis pas d'accord non plus avec l'adolescent.
Ça n'existe pas. C'est une sorte de fantasme, mais de fantôme donc.
Non.
De toute façon, c'est un livre de fantômes et d'ombres, ça c'est sûr.
Pour que les auditeurs comprennent, on a quand même dans toutes les scènes de souvenirs des scènes qui ne sont pas les vocations d'un personnage évanescent, mais des scènes
non très
vivantes
concrètes.
Avec
mais c'est
elle,
pas pour autant concrète. Qu'elle existe.
En l'occurrence, si. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on ne parle. Enfin, c'est quoi la littérature si c'est la vraie vie, votre truc?
Mais ça n'a rien à voir. Il y a quand même beaucoup de littérature différente. On ne peut absolument pas comparer les trois livres qu'on a au programme.
La comparaison avec Modiano est juste pour une partie seulement du livre. Mais il n'y a pas chez Modiano cet élan vers l'imaginaire, cette force-là qui est quand même tout à fait au cœur du livre. L'idée de délicatesse, je suis pas d'accord avec ce mot. Je ne vois pas en quoi ce serait un livre délicat, alors qu'il
c'est
a une sorte
hein.
de.
Si,
c'est,
bah, écoutez, ah non, pas dans ma bouche.
Tout le monde l'a repris de manière péjorative.
Ah bah,
d'accord.
Pas chez moi.
D'accord. Mais oui, je sais. D'ailleurs, j'ai lu votre papier, mais qui n'était pas péjoratif. Oui, mais vous l'avez tous repris de cette manière-là. Je ne sais pas bien pourquoi,
Lucille.
D'ailleurs. Mais en l'occurrence, je suis pas totalement d'accord avec ce mot. Ce livre a une grande force dans le trouble qu'il est capable de créer entre les plans qu'il traverse. Par ailleurs, quand Lucile vous disiez, on voit le dispositif en permanence ou bien il n'y a que ça, mais il y a mille choses sur la solitude, sur la vie, sur c'est marrant, il y a des trucs sur Paris, il y a des promenades, il y a des éléments pour le coup. Je reste dans les livres qu'on a traités là. Pour le coup, pourquoi des promenades dans New York avec Viviane Gornick, ça serait toujours bien. Et pourquoi là?
Mais parce que c'est
pas du tout le même style. Enfin,
là, pour le coup, moi, le Paris, enfin, je sais que c'est pas ma génération et tout.
Non, mais ça n'a rien à voir.
Non, mais je veux dire, pour moi, il n'existe pas de la même manière que les personnages n'existent pas. Cette ville, je ne la sens pas. Je ne sais pas. Comment vous dire autrement, ça ne m'évoque rien en fait, ça ne m'évoque absolument rien.
Renvoyons
mais je vois en effet la comparaison qui peut être faite.
Oui, d'accord. Vous ne
sentez rien. On a désespéré, Florent Georges.
Mais non, mais c'est-à-dire, oui, c'est désespérant. C'est marrant quand même d'avoir un si mauvais livre et un si bon livre côte à côte et d'entendre une inversion pareille, quoi. Voilà.
Oui, non, ça, c'est votre sentiment. On peut exprimer les nôtres.
Tout le monde peut exprimer ce qu'il veut. On peut ne pas les comparer, ce qui est quand même, à mon avis, la chose la plus intelligente à faire, parce que ça n'a rien à voir.
Oui, ça, c'est sûr qu'on a trois livres qui étaient extrêmement dissemblables.
Ça n'a rien à voir. Il y a un moment où on dit qu'un livre est intéressant. Vous dites que le livre de Marc n'a strictement aucun intérêt.
Pour
vous dites
telle
à partir
raison.
D'arguments que je ne perçois toujours pas.
Pas
il y a une comparaison entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Il est tout à fait dommage que des lecteurs aillent perdre leur temps à lire la vraie vie, alors qu'il y a des auteurs en France comme Mark Green qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus novateurs. Mais bon, allons-y.
Mais c'était pas par décret.
Le chien crevé. Non,
mais c'est pas par décret que ça se passe ces choses-là. On est là pour partager les impressions de lecteurs et pas seulement de lecture. Frédéric Haber de Mark Green. Oui, non, mais on a donné des éléments nous aussi. Chez Grasset. Voilà, la dispute continue, mais il n'y a pas une vérité.
Ah bah oui, mais c'est quand même dommage.
Ça continue, mais c'est le moment du jeu de la dispute. Alors, bon, on va juste parler du jeu de ce soir. On fait gagner des invitations pour l'exposition La Santé de Mathieu Pernaut au 104 à Paris jusqu'au 6 janvier. La réponse, non, la question. Sarah Dion, s'il vous plaît.
Quelle a été l'activité du 104 pendant plus de 120 ans avant sa reconversion artistique?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission retrouvées sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain à 19h en public au Bel Air, nous ferons une dispute cinéma. Lucille Comeau, vous serez à nouveau là parce qu'il y aura à nouveau un petit salon demain. Et vous ferez aussi la critique avec Charles Garçon et Philippe Azoury pour parler de Amine de Philippe Faucon et Girl de Lucas Donte.